Nous allons nous concentrer ici sur le peu d'intérêt qu'il existe pour le dépistage du cancer. Nous parlerons du test visuel, de son rôle et du type de preuve scientifique qui justifie son utilité. Nous verrons enfin s'il y a une place pour le test visuel dans ce scénario en évolution. Si l'on se penche sur les tests de dépistage qu'il existe, vous voudriez qu'ils soient très simples et facilement utilisables, qu'ils ne nécessitent que peu d'équipement et qu'ils soient par conséquent réalisables dans n'importe quel endroit du monde, qu'ils soient abordables et acceptables par les personnes et qu'ils puissent fournir immédiatement des résultats. Vous n'auriez pas à attendre, vous n'auriez pas besoin de mécanismes pour collecter les résultats et les communiquer aux patients. Vous obtiendriez également une sensibilité et une spécificité très élevées. C'est une situation idéale lorsque les tests de dépistage pour chacune des maladies répondent à tous ces critères. Nous cherchons des tests qui remplissent plus de critères dans les études. C'est pourquoi nous avons mis en place des programmes de formation qui sont très bien implantés et avec d'excellentes procédures d'assurance qualité. De cette façon, nous pouvons atteindre un maximum d'objectifs pour un test donné. Nous avons entendu parler de cytologie et de tests VPH. Maintenant, nous allons entendre parler du test visuel. La cytologie et les tests visuels sont tous deux utilisés par un grand nombre de prestataires de soins. Il va donc inévitablement y avoir une variabilité intra-observateur et cette variabilité est directement liée à la qualité de la formation, à l'assurance qualité et à la surveillance. Chaque prestataire de soins va retirer ce qu'il veut de la formation et le test étant dépendant de cette personne, il peut y avoir d'énormes différences et des problèmes de reproductibilité suivant l'intérêt que la personne porte à ce test. En considérant ces facteurs, les tests visuels sont bien sûr simples et abordables, et ils sont réalisables dans la majorité des pays car ils ne posent pas de problème lié à une énorme chaîne d'approvisionnement, comme ça peut être le cas pour les tests de haute technologie qui nécessitent de nombreux consommables et un équipement de laboratoire. Il faut se rendre dans certaines contrées du monde, comme en Afrique subsaharienne, dans des régions retirées et autres pays en développement pour comprendre réellement les difficultés rencontrées lors de tout type de travail en laboratoire. Le test visuel permet d'obtenir des résultats immédiats, ce qui est un point intéressant. Les prestataires de soins n'ont qu'une expérience limitée du test visuel dans différents pays. Ils peuvent cependant être formés rapidement. Le fait de recevoir une formation officielle est un autre problème, mais de nombreuses personnes peuvent être rapidement formées, comme les infirmières, les professionnels du paramédical et les médecins. Ce test peut être réalisé par un grand nombre de personnes plutôt que de restreindre son accès à des médecins hautement qualifiés, ce qui est avantageux pour beaucoup de pays. La plupart du temps, ce sont les exigences professionnelles ou les avantages financiers et autres qui restreignent la mise à disposition de tests de dépistage, particulièrement le dépistage du col de l'utérus et la cytologie du col de l'utérus, à ces médecins ou personnes ayant une formation médicale. Les infirmières et les professionnels du paramédical sont aussi compétents, sinon plus que les médecins. Nous avons également vu qu'il faudrait une précision raisonnable, une sensibilité et une spécificité élevée qu'il n'est pas possible d'atteindre, donc il faut toujours faire des compromis. Qu'est-ce qu'une sensibilité et une spécificité raisonnable ? Si l'on jette un œil à toutes les difficultés d'ordre pratique, vous seriez d'accord qu'une sensibilité raisonnable, particulièrement pour un test de dépistage génique du col de l'utérus, serait de 56%, le maximum que nous puissions obtenir. Il faudrait des conditions très strictes, idéales, pour détecter les vrais cas positifs à une maladie. Les chances qu'un test de dépistage vraiment officiel soit sensible dans un dépistage unique sont de 60%, ce qui représente une très bonne sensibilité. Idéalement, les professionnels de santé voudraient que la spécificité atteigne 95-96%, ce qui est rarement possible pour beaucoup des nouveaux tests et pour le test du dépistage visuel. Encore une fois, les personnes doivent comprendre que la sensibilité remplit les critères de plusieurs aspects techniques. Qu'est-ce que la sensibilité ? La sensibilité est une proportion. Elle indique réellement la proportion de maladies avérées lorsque le test de dépistage est positif. Cette proportion peut varier en fonction de différents facteurs. Bien sûr, l'efficacité du test, mais le second point le plus important est dans quelle mesure vous êtes capable d'établir le nombre exact de personnes vraiment malades. Vous ne pouvez pas établir un diagnostic de vrai positif, même si un test de dépistage peu efficace peut avoir une sensibilité très élevée, comme par exemple le dépistage visuel en Afrique subsaharienne qui a une sensibilité d'environ 95-99%, mais ça ne veut pas dire que c'est un test à sensibilité élevée. La vraie possibilité qu'il s'agisse d'un vrai résultat positif à une maladie n'a pas été complètement prouvée. La possibilité de rendre un diagnostic positif non erroné dépend de la qualité des valeurs standards et du diagnostic de référence que nous utilisons. Nous savons tous, cliniciens, épidémiologistes, professionnels de santé publique, que l'efficacité du diagnostic, la sensibilité, la spécificité et la validité des modalités de diagnostic varient à travers le monde. Prenons en exemple les pathologistes, colposcopistes et les cliniciens. Il existe une variabilité intra-observateur considérable entre ces professionnels de soins. Une grande partie des pathologistes ne seront jamais d'accord avec le diagnostic d'une maladie de bas grade et un grand nombre ne seront pas d'accord avec un diagnostic de haut grade, même avec suffisamment de spécimens histologiques. De la même manière, deux colposcopistes ne seront pas d'accord dans 30% des cas, donc il y a une variabilité intra-observateur importante. Tous ces aspects doivent être pris en compte. Un regard nouveau doit être jeté sur la spécificité et la sensibilité d'un test donné. Ceci doit rester dans un coin de notre tête et nous ne devons pas accepter les chiffres tels qu'ils sont. Nous devons nous demander pourquoi et comment. Est-ce vraiment possible et quels sont les facteurs associés aux synthèses chiffrées? Évidemment, nous mettons ce matin l'accent sur l'importance de l'assurance qualité, y compris professeur Jordan. L'amalgame est beaucoup plus fréquent avec tous ces aspects particuliers. Il existe deux tests visuels, l'inspection visuelle à l'acide acétique, qui est largement utilisée en colposcopie, avec 3, 4 ou 5% d'acide acétique. Le second est le test de Schiller. Il s'agit d'une inspection visuelle au soluté de Lugol. Nous allons voir quel est le potentiel de ces tests. Encore une fois, comme beaucoup des tests de dépistage sont des procédures de diagnostic, il existe plusieurs pièges courants pour les tests visuels. L'un des plus gros leurres, je dirais, est l'inflammation, particulièrement dans le tiers-monde. Plus de 70 ou 80% des femmes sont sujettes à des inflammations à un moment donné. L'inflammation du tissu permettant la régénération est un leurre majeur pour la cytologie. Le tissu régénérateur et le tissu inflammatoire sont des notions auxquelles les personnes doivent être longuement formées. Dans la majorité des cas de métaplasie malpighienne, aussi bien en cytologie qu'en colposcopie, cela peut induire en erreur l'évaluation des tests visuels. Les personnes doivent comprendre cliniquement ce que sont une candidose et une leucoplasie. C'est un autre point important car si la notion de la candidose n'est pas correctement comprise et que les plaques ne sont pas correctement éliminées, l'acide acétique sera absorbé et entraînera un test positif erroné. Il faut également ajouter que l'épithélium chez la femme en post-ménopause est très dégénéré et l'imputation du test visuel est très difficile, de même qu'en colposcopie. Bien sûr, une formation insuffisante, une mauvaise vue et un mauvais éclairage jouent sur votre manière d'évaluer. Les principes de formation sont particulièrement importants pour les tests visuels, car ces derniers sont interprétés en fonction de la jonction pavimento-cylindrique. Les personnels formés doivent connaître l'anatomie et les aspects physiologiques du col. Une formation fondamentale doit être basée sur les aspects pathologiques, physiologiques et anatomiques du col et sur la compréhension des différentes évolutions des maladies qui l'affectent. Ce test n'est donc pas complet, nous appliquons juste de l'acide acétique et du soluté de Lugol, nous observons le col et notons le résultat. Il est important de comprendre ce qui se cache derrière toutes ces techniques, sans quoi la variabilité sera considérable. Comme nous l'avons vu, un des plus grands avantages du test visuel est qu'il n'est pas nécessaire de l'analyser dans un laboratoire pour obtenir le résultat, car ce dernier est immédiat. Un des problèmes majeurs de l'utilisation du test visuel réside dans le fait que son interprétation se fait en fonction de la jonction pavimento-cylindrique. Il faut donc identifier cette jonction avant d'interpréter le test. La jonction pavimento-cylindrique n'est pas visible et chez la femme en post-ménopause, le test est très insatisfaisant. Le second problème est une source de litige et concerne la formation au test visuel sur le col de l'utérus. Il faut identifier la jonction pavimento-cylindrique, puis appliquer l'acide acétique sans tenter d'essuyer le mucus inflammatoire avec des manipulations très vigoureuses du col. Dès que ce dernier commence à saigner, le test visuel est alors très difficile à interpréter. Il s'agit donc là d'un point litigieux et comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des cols de l'utérus des femmes vivant dans les pays en développement sont inflammés. Le risque de provoquer un saignement est assez élevé, donc la manière dont le col est manipulé constitue un autre point important. Concernant le compte-rendu des résultats de tests visuels, il existait à la base, dans le système de déclaration, une catégorie indéterminée. À partir du moment où vous utilisez dans le compte-rendu une catégorie non spécifique, en cytologie, les personnes peuvent s'en servir comme d'un moyen de se protéger contre d'éventuels démêlés médico-légaux que pourrait susciter un diagnostic erroné d'atypie ou d'ascus, par exemple. Le résultat du test visuel avait donc initialement, en plus de la catégorie positive et négative, une catégorie indéterminée. Généralement, les personnes essaient de mettre beaucoup de choses dans ce genre de catégorie. Elle a donc rapidement été retirée du rapport des résultats. Il existe désormais trois catégories pour le test visuel: négatif, positif et suspicion de cancer invasif. Cette troisième catégorie est particulièrement importante car elle permet aux prestataires de soins de proposer immédiatement d'orienter la patiente vers un examen complémentaire. En général, lorsque nous interprétons le résultat, nous cherchons les preuves d'un résultat positif et le résultat négatif est généralement obtenu par élimination. Vous avez exclu tous les points positifs et on est arrivé à un résultat négatif. Il faut tout d'abord rechercher les signes d'un résultat positif. C'est de cette manière que sont formées les infirmières et techniciens. Il faut rechercher les signes d'un test visuel positif et si ces signes sont absents, vous classez le test comme négatif. Nous encourageons également à renouveler cette recherche si des doutes persistent et assez souvent dans ce contexte, l'acide acétique et le Lugol, comme vous le savez, sont plus complémentaires que concurrents. Si les principes sont respectés chez la femme en préménopause, où la jonction pavimento-cylindrique est clairement identifiable, si l'inspection visuelle à l'acide acétique ou aux solutés de Lugol est négative, la valeur prédictive négative de néoplasie cervicale est très élevée. Nous utilisons un sérum physiologique lors de la formation au test visuel afin d'étudier les aspects colposcopiques. Il faut savoir que les zones acidophiles ne sont pas comme des parois blanches. Il faut donner à ces personnes le concept propre d'un épithélium acidophile, leur expliquer comment il apparaît, quelle est la dynamique de la réaction acidophile et leur faire observer les types de contours et autres détails. Pratiquer l'observation à l'œil nu et leur montrer des aspects colposcopiques à l'aide du grossissement est très important pour qu'ils s'imprègnent des concepts. Il faut également leur montrer des cas de faux positifs afin de leur donner la confiance nécessaire pour qu'ils les identifient correctement et afin d'améliorer la spécificité. Il y a une grande variabilité de la spécificité dans l'inspection visuelle effectuée lors de différentes études dans plusieurs pays, qui est principalement due au niveau de qualité de la formation et de la manière dont sont caractérisés les tests positifs et négatifs. Il est important que le prestataire de soins acquiert une confiance dans le rapport de ses résultats, d'autant plus qu'il est souvent sous pression. Ce test n'est pas simple, il représente un grand défi. Une des choses que nous expliquons essentiellement pour les encourager à identifier l'orifice, la jonction pavimento-cylindrique, l'ectocol et l'endocol, et assez souvent l'épithélium malpighien chez une femme d'un âge avancé, est que la jonction pavimento-cylindrique blanchit et prend l'aspect d'un liseré blanc. Les personnes qui ont suivi une formation inadaptée interprètent cette manifestation comme un résultat positif. Elle constitue une des sources majeures de risque de résultats faussés. Assez souvent, dans le cas d'un ectropion, il y a une inflammation, une présence de mucus et une métaplasie malpighienne s'étend sur tout cet ectropion. La procédure à suivre est la suivante. Lorsque vous observez un ectropion, essayez de l'interpréter comme un résultat négatif. Ensuite, de la même manière, le test visuel identifie beaucoup de lésions de bas grade et le moyen de les éviter est d'identifier toutes les lésions satellites. Si ces lésions n'atténuent pas la jonction pavimento-cylindrique, qu'elles ne la touchent pas, que l'épithélium est normal à l'intérieur de celle-ci, qu'il y a une zone acidophile et la présence de lésions satellites ou de formes géographiques permettent de classer le test comme négatif. Beaucoup de lésions de bas grade ainsi que les kystes de Nabot ont un aspect de lésions boutonneuses éparpillées et les prestataires de soins inexpérimentés les classent en test positif. Nous les encourageons donc à les classer comme test négatif. Passons aux résultats positifs. L'accent est mis sur l'observation de la jonction pavimento-cylindrique, des lésions acidophiles touchant cette jonction, de la totalité du col devenant acidophile ou d'une excroissance devenant acidophile. Ces points sont des informations très importantes qui doivent être transmises aux prestataires de soins et encore une fois, il est nécessaire d'illustrer ces points par des photos et ensuite de leur montrer sur des cas réels. Il existe une courbe d'apprentissage. Bien souvent, lorsque la totalité du col devient acidophile, les personnes passent à côté car elles recherchent toujours une petite zone acidophile touchant la jonction pavimento-cylindrique. Et dans les cancers micro-invasifs étendus ou SIN3 et lésions de haut grade étendues, elles recherchent un col devenant complètement acidophile. Nous avons plusieurs fois l'occasion de voir des prestataires de soins les classer comme résultats négatifs. Bien sûr, quand la lésion précancéreuse grandit et devient acidophile, elle n'est pas très difficile à repérer, mais le problème est que la plupart du temps, la zone acidophile interagit avec les saignements et peut ainsi être effacée. Un autre point important est l'utilisation de ce tableau de référence rapide. Il est fourni à tous les prestataires de soins et peut être affiché dans la salle de dépistage. Le prestataire de soins applique l'acide acétique, observe le col et essaye d'interpréter les résultats en se référant au tableau. Le plus souvent, cette méthode fonctionne très bien et encourage le personnel. Les personnes ont ainsi un mécanisme de reconnaissance et leurs yeux sont exercés. Celles qui sont intéressées deviennent très rapidement confiantes et convaincues par la méthode. Nous avons constaté, en analysant la courbe d'apprentissage de nos études, que ces personnes doivent observer environ 300 femmes avant d'être réellement confiantes. Nous utilisons trois facteurs simples pour surveiller les prestataires de soins lorsqu'ils débutent avec la pratique d'un dépistage visuel. Le premier facteur est la positivité du test, qui pourrait se situer entre 10 et 50%, et lorsqu'elle est inférieure à 10%, dans les régions où l'incidence est élevée, nous sommes vraiment inquiets. Le second facteur est la valeur prédictive, tout grade de signe confondu, qui devrait être de 20%, et le troisième facteur correspond à la valeur prédictive de cas de haut grade, qui est de 10%, ce qui signifie qu'une femme sur 10 dont l'IVA est positif pourrait être atteinte d'une maladie de haut grade établie sur les standards de référence, ou bien que 2 femmes sur 10 dont l'IVA est positive sont atteintes de signes de n'importe quel grade. Nous utilisons donc ces trois points de référence pour surveiller les prestataires de soins et la reproductibilité est fréquemment comparée entre le maître formateur et le prestataire de soins formé. Nous utilisons des images pour savoir dans quelle mesure ces deux personnes peuvent s'entendre sur le diagnostic. Venons-en au soluté de Lugol ou test de Schiller. Il est très utile car c'est un complément idéal à l'inspection visuelle à l'acide acétique. Si les professionnels voient une zone acidophile et que leur impression est que l'IVA est positive, ils peuvent immédiatement appliquer le soluté de Lugol et la zone devient jaune moutarde ou jaune safran dans le cas d'un test positif. L'inspection au soluté du Lugol a été évaluée indépendamment de l'inspection visuelle à l'acide acétique. Nous avons rencontré quelques difficultés avec l'évaluation du test, car lors d'études menées par le CIRC, nous nous sommes rendus compte que si l'IVL est interprété directement après l'IVA, même par un autre observateur, la persistance de l'effet de l'acide acétique donnait des indices. Certains types de biais proviennent donc de la manière dont les IVL ont été interprétés dans la majorité des études. Cependant, même si de nouvelles études ont été menées, nous sommes toujours confrontés au même type de problème que ceux posés par l'inspection visuelle à l'acide acétique. Ici encore, l'inflammation est un facteur majeur et nous encourageons les professionnels en leur expliquant que l'inflammation n'est pas limitée à la zone de remaniement, elle s'étend. C'est une colpite, une vaginite. Lorsque le processus est inflammatoire, il se répand. Il faut être prudent tandis que les néoplasies cervicales que nous sommes formés à détecter et à en prévenir le développement sont essentiellement limitées à la zone de remaniement. Nous utilisons donc un certain nombre d'images pour former les professionnels. Je souhaite maintenant parler rapidement des preuves scientifiques qui existent pour l'évaluation du test visuel. Il y a actuellement trois types de preuves connues. Celles provenant d'études transversales en termes de performance des caractéristiques liées à la sensibilité, à la spécificité et aux valeurs prédictives effectuées dans différents lieux et par différents professionnels. Un nombre très important de femmes à travers le monde et plus de 60 pays ont fait l'objet d'études dans des lieux consacrés à la recherche afin d'évaluer les différents aspects du test visuel. Les professionnels étaient docteurs, infirmières professionnelles du paramédical, des personnes possédant un diplôme ordinaire, des personnes diplômées de grandes écoles et d'autres prestataires de soins. Comme vous pouvez le voir ici, la sensibilité a varié de 50% à environ 95%. Cette sensibilité de 95% a été constatée dans des pays d'Afrique subsaharienne comme le Burkina Faso, le Nigeria, le Congo et autres où l'on peut trouver des prestataires de soins fraîchement formés. Il paraît douteux que la totalité de ces cas réels de maladie ait été détectée. L'appréciation du résultat des tests a été faussée à cause de biais dus à la proportion, tandis que dans des lieux où les professionnels ont une grande expérience dans la détection de cas réels de maladie, ou dans des lieux où nous pensons que les standards de référence ont une certaine validité, la sensibilité était de 52% à 60% avec une moyenne de 55%. Nous pouvons dire que la sensibilité de bonne qualité dans les tests visuels est d'environ 50%. La spécificité variait de 30% à 95% dans différents lieux. L'étude la plus récente effectuée en Chine, à l'aide de médecins, a révélé une spécificité d'environ 93%. Une définition plus restreinte de l'inspection visuelle a été utilisée et la sensibilité associée aux biopsies de cadran a révélé une évaluation en forte baisse des vrais positifs d'environ 47% et pour les signes 3 d'environ 55%. Je pense que ceci reflète plus ou moins une sensibilité réaliste de l'inspection visuelle à l'acide acétique d'une assez bonne qualité. Le second niveau de PROF provient des études d'intervention randomisées. La majorité des études d'évaluation du dépistage à l'aide du nouveau test du cancer du col de l'utérus ont toujours recherché le taux de détection des néoplasies cervicales intraépithéliales. Comme je l'ai évoqué précédemment, l'histoire naturelle du potentiel des signes peut être différente selon leur catégorie. Un nombre important d'entre elles n'évolueront jamais vers un cancer invasif, car lors du dépistage, elles sont souvent surdiagnostiquées et ensuite surtraitées. Assez souvent, une preuve basée sur le taux de détection, et particulièrement sur celle des signes de haut grade, est peu fiable. Une sensibilité plus élevée ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la prévention du cancer invasif. Les critères liés au diagnostic des signes dans les différentes études sont eux aussi très variables, donc les signes peuvent être classés comme signes de haut grade de manière abusive et il peut y avoir un surdiagnostic des signes non progressive et indolente. Enfin, il existe des preuves en termes de prévention du cancer invasif. Elles sont très importantes pour évaluer les nouveaux tests de dépistage. Cependant, le problème posé par ces études est que le suivi de la maladie peut être extrêmement long, car le cancer invasif apparaît très lentement. Les personnes demandent fréquemment quel est le type de preuve dont nous avons besoin. Je pense qu'une preuve liée à la prévention du cancer invasif est très importante, car vous pouvez présenter ce test avec beaucoup d'enthousiasme et au bout du compte, il s'avère inefficace. Je pense que nous mettrions ainsi en péril un soin de santé important, il faut donc être très attentif. Il y a eu par la suite le regard des experts internationaux du CIRC sur la preuve de ces différents tests de dépistage en 2005 qui ont fait appliquer des normes différentes. Les experts ont utilisé les taux de détection, la sensibilité et la précision du test VPH et ont affirmé que ce test avait le potentiel pour réduire le fardeau de la maladie dans le futur. Ils ont cependant également déclaré avoir besoin de plus de preuves et je suis complètement d'accord. Même si différentes normes sont appliquées pour le test visuel, je dirais que nous avons besoin de plus de preuves. Alors, quelles preuves scientifiques existent pour le test visuel dans les études d'intervention randomisées ? Des études très importantes ont été menées en Afrique subsaharienne et en Afrique du Sud par Lynette Denis et ses collègues portant sur les approches des tests de dépistage. Ces approches permettront de dépister en excluant cliniquement les cancers invasifs de façon à les traiter à l'aide d'une technique élaborée comme la cryothérapie. Il n'y a pas de triage par colposcopie ni de biopsie dirigée par colposcopie au préalable car dans plusieurs régions d'Afrique, les services sanitaires n'ont pas la capacité nécessaire pour pratiquer des techniques de diagnostic comme la colposcopie et les biopsies. Ce n'est pas une excuse pour ne pas les développer, mais c'est la situation actuelle de plusieurs pays. Il est essentiel d'essayer de réduire dans le futur la prévalence des signes de haut grade et l'incidence du cancer invasif dans ces pays. Environ 6000 femmes ont participé aux essais randomisés en Afrique du Sud. Elles ont été randomisées dans trois groupes et chacune d'entre elles ont fait l'objet d'une inspection visuelle à l'acide acétique et d'un test VPH par la technique de l'hybride Capture-Two. Une fois les résultats disponibles, les femmes ont été réparties au hasard dans trois groupes. Les premiers 2000 tests à l'acide acétique se sont révélés positifs et aucun cancer invasif n'a été détecté. Leurs lésions ont été cliniquement détruites par congélation, c'est-à-dire par cryothérapie, donc 50% des femmes de ce groupe ont été traitées. Dans le second groupe, quand le test VPH était positif, leurs lésions ont également été traitées par congélation. Dans le troisième groupe, de 2000 femmes, aucun traitement n'a été effectué immédiatement. Il leur a été demandé de revenir 6 mois plus tard. Au terme de ces 6 mois, les 6000 femmes ont été rappelées et toutes ont fait l'objet de biopsies dirigées avant le traitement par cryothérapie et un contrôle de leur col a été effectué pour opérer d'éventuelles néoplasies cervicales intraépithéliales. Les maladies de haut grade et cas de cancer ont été comptabilisées dans chacun des trois groupes. Le groupe dans lequel la cryothérapie a été pratiquée suite à un test VPH, 6 mois après l'évaluation et 6 mois après le traitement, 15 cas de maladies de haut grade ou cancer ont été détectés. Le second groupe dans lequel la cryothérapie a été pratiquée suite à un test IVA, 43 cas de signes 2 à 3 ont été détectés. Le groupe dans lequel l'évaluation a été reportée et dans lequel des biopsies dirigées par colposcopie ont été effectuées 6 mois plus tard et où les femmes avaient été traitées, 65 cas de signes 2 à 3 ont été détectés. Tout ceci révèle que la prévalence de la maladie de haut grade était bien inférieure dans le groupe qui a fait l'objet d'un test VPH par rapport au groupe témoin. Elle était moyenne dans le groupe du test visuel. Une baisse de 30% de la prévalence des maladies de haut grade pour le groupe IVA et de 78% dans le groupe VPH a été observée. Les trois résultats de suivi sont disponibles et seront publiés prochainement. Je pense que le même niveau de protection est maintenu. Qu'est-ce que cela indique ? Cela signifie que le test VPH identifie correctement une grande partie des maladies de haut grade ou indique si les femmes ont un risque d'en être atteintes. C'est une preuve très très importante. La seconde étude dont je voudrais parler rapidement est un essai d'intervention randomisé effectué en Inde. Un dépistage unique a été réalisé pour étudier l'inspection visuelle à l'acide acétique. 80 000 femmes ont participé et 49 000 d'entre elles ont été réparties au hasard pour un dépistage unique par inspection visuelle à l'acide acétique réalisé par des infirmières. Les femmes pouvant participer avaient entre 35 et 59 ans. Les 31 000 femmes restantes ont fait l'objet de la procédure habituelle, qui n'est pas le dépistage, mais l'éducation sur la santé. Des conseils leur ont été donnés concernant les lieux de dépistage de façon à ce qu'elles puissent s'y rendre pour obtenir ces services si elles le souhaitent. Environ 5% des femmes du groupe témoin ont sollicité un dépistage et sur les 49 000 femmes invitées dans le groupe d'intervention, 31 000 ont été dépistées, ce qui représente un taux de 63% de participation. Les femmes dépistées positives ont immédiatement fait l'objet d'une colposcopie sur le terrain réalisée par des infirmières. Celles-ci ont également dirigé des biopsies et effectué des diagnostics colposcopiques. Les femmes ayant des lésions importantes et celles dont les lésions laissaient supposer un cancer invasif ont été référées pour une meilleure prise en charge dans le centre de traitement. En revanche, les lésions pouvant être traitées par cryothérapie, qui sont des lésions affectant moins des 3/4 de la zone de remaniement, ont été traitées sur place après qu'une biopsie dirigée ait été réalisée. Environ 10% des femmes ont été détectées positives à l'inspection visuelle et la plupart d'entre elles ont fait l'objet d'une colposcopie réalisable sur place immédiatement. Il y a eu une forte participation et environ 80% des femmes ont été traitées. Pour 1000 femmes dépistées, 7 étaient atteintes de maladies de haut grade, de signes 2 à 3 et 3 autres d'un cancer invasif. Le taux de détection était donc de 10 pour 1000 et de 1% pour les cancers invasifs de haut grade. Ensuite, les deux groupes de femmes ont été suivies à travers un registre de cancer de population pour relever les preuves liées à la mortalité due au cancer du col de l'utérus. Ce suivi était actif, des visites ont été organisées dans les maisons de chaque femme. Il est important de compter ces femmes et de rester attentif pour ne pas passer à côté d'un cancer du col de l'utérus ou d'un décès dû à ce cancer dans la population. Cette étude a débuté en 2000, le dépistage a pris fin en 2003 et 7 ans plus tard, une baisse considérable a été observée dans l'incidence du cancer du col de l'utérus dans le groupe de l'inspection visuelle que vous voyez ici. C'est un essai randomisé par groupe. La totalité de l'incidence du cancer était 25% moins importante dans le groupe de l'inspection visuelle que dans le groupe témoin, et une baisse de 35% des décès par cancer du col de l'utérus a été observée dans ce premier groupe. Si l'on se penche sur les différents groupes d'âge, la protection se limite complètement au groupe de femmes en préménopause. Dans le groupe de femmes âgées de 30 à 39 ans, une baisse de 38% de l'incidence et de 66% de la mortalité a été observée. L'étude n'a pas une puissance suffisante pour détecter ce groupe de femmes âgées de 32 à 39 ans, mais elle n'est pas très utile chez les femmes en post-ménopause. Des preuves provenant d'études transversales et d'essais randomisés sont donc disponibles. En Afrique du Sud, une baisse de 38% de la prévalence des signes 2 à 3 a été constatée et un essai randomisé en Inde a révélé une baisse semblable de cas de maladies invasives. Voici des incidences cumulatives représentées par des courbes de mortalité. La nouvelle étude reportera les résultats d'un dépistage unique avec un test VPH unique, avec la cytologie ou avec une inspection visuelle à l'acide acétique. Ces résultats sont en cours de révision et nous espérons qu'ils seront publiés sous peu. L'étude révèle que l'inspection visuelle à l'acide acétique et la cytologie obtiennent exactement les mêmes résultats. Environ 28 000 femmes détectées négatives à l'IVA ont été suivies pendant 8 ans et 25 d'entre elles ont développé un cancer invasif. Environ 25 000 femmes ont été détectées négatives à la cytologie et ont été suivies durant le même nombre d'années. 8 d'entre elles ont développé un cancer invasif. Ces résultats proviennent de différentes études. Je pense que le test visuel est une étape intermédiaire avant que nous mettions en place un test VPH rapide qui puisse être facilement utilisable dans les pays. Je pense que c'est un tremplin, que ce test peut être cliniquement utile et qu'il peut être utilisé dans beaucoup de pays. Nous devons tout de même rester vigilants lors d'organisation de programmes utilisant le test visuel. Merci pour votre attention.